Chapitre 9. Vous prendrez le commandant pendant mon absence, dit Macmillan à son second. Votre priorité sera la sécurité des passagers et de l'équipage. Si vous voyez ou entendez quoi que ce soit de suspect, appareillez aussitôt. Il s'apprêtait à diriger la première mission de reconnaissance dans Rama 3. La Pinta avait apponté la veille sur une des extrémités hémisphériques de l'énorme cylindre extraterrestre, comme les vaisseaux des expéditions de 2130 et 2200. Kenji Watanabe avait fait un exposé aux membres de ce groupe sur la topographie des ramas précédents. Son ami, Max Puckett, l'avait ensuite abordé pour lui demander
« Vous pensez qu'il est identique aux appareils dont vous nous avez montré les photos ?»«
Pas tout à fait. D'après le message reçu, un habitat terrestre y a été aménagé. Mais comme il a le même aspect extérieur que ses prédécesseurs, les points communs devraient être nombreux.
Ce qui me dépasse, c'est qu'on m'ait désigné pour faire partie de cette équipe. Vous n'êtes vraiment pour rien dans cette décision?
Je vous ai déjà expliqué que les 16 éclaireurs ont été choisis par l'ASI et les SR.
Mais pourquoi m'a-t-on refilé un pareil arsenal? J'ai un fusil mitrailleur laser dernier modèle, un stock de grenades autoguidées et même quelques mines à détection de masse. Ma puissance de feu est supérieure à celle dont je disposais lors de l'intervention des forces de maintien de la paix au Belize.
Le commandant et les militaires du CDG sont toujours convaincus que c'est un piège. Officiellement, vous êtes des soldats, mais je suis certain que vous n'aurez pas à vous servir de vos armes.
Le lendemain matin, quand Macmillan laissa le commandement de la Pinta à Dimitri Ulanov pour prendre la tête du groupe d'exploration de Rama, Max grommelait encore. Bien que privé de poids par la pesanteur, son barda le gênait et réduisait sa liberté de mouvement.
« C'est ridicule. Je suis un fermier, pas un guerrier. »
Ils eurent une première surprise peu après avoir franchi le sas externe. Le large couloir donnait sur une salle circulaire, d'où partaient trois passages. Deux étaient condamnés par de lourdes grilles métalliques, et le commandant fit venir Kenji qui déclara
« La conception est totalement différente. Nos cartes ne nous seront d'aucune utilité. Je présume que nous sommes censés emprunter le seul tunnel dégagé. Hormis retourner à bord de la Pinta, c'est l'unique possibilité. »
Ils progressaient lentement, ralentis par leur combinaison spatiale. À intervalles réguliers, ils tiraient des fusées éclairantes devant eux pour voir où ils allaient. Ils avaient parcouru 500 mètres quand ils discernèrent au loin deux silhouettes. Les militaires sortirent leurs jumelles.
« Ils viennent vers nous !» dit l'un d'eux.
« Je veux bien être pendu si c'est pas Abraham Lincoln !»
s'exclama Max Puckett en sentant un frisson glacé longer sa colonne vertébrale.
« Et une femme qui porte une sorte d'uniforme !»«
Préparez-vous à tirer !» ordonna Macmillan.
Les soldats coururent s'agenouiller en tête du groupe et mirent en joue les étranges personnages.
« Halte !»
leur cria le commandant quand ils ne furent plus qu'à 200 mètres. L'Abraham Lincoln et la Benita Garcia obtempérèrent.
« Que nous voulez-vous ? »
cria Macmillan.
« Nous sommes venus vous accueillir, » répondit l'Abraham Lincoln d'une voix sonore.
« Et vous guider jusqu'au Nouvel Éden, »
précisa la Benita Garcia. Le commandant ne savait quoi faire. Pendant qu'il hésitait, ses compagnons commentaient l'événement.
« C'est le spectre de Lincoln !»
disait Terry Snyder, un Américain.
« La femme, c'est Benita Garcia. J'ai vu sa statue à Mexico. »«
Foutons le camp d'ici. J'ai la chair de poule. »«
Qu'est-ce que des fantômes viendraient faire dans les parages de Mars ?»
Kenji décida d'intervenir.
« Excusez-moi, commandant, mais quelles sont vos intentions ?»
C'est une décision délicate. Il paraît sa première vue inoffensif, mais rappelez-vous le cheval de Troie. Et vous, Watanabe, que suggérez-vous?
Je pourrais aller à leur rencontre seul ou avec un soldat. Cela devrait nous permettre...
Votre courage vous honore, mais il est sans objet.
Non, nous allons tous avancer. Avec prudence, cela va de soi.
et nous laisserons deux hommes en arrière-garde, afin qu'ils puissent avertir la Pinta si nous étions fauchés par un rayon ou s'il nous arrivait autre chose. »
Il utilisa sa radio.
« Ulanov, ici Macmillan. Nous avons établi un contact avec deux êtres, des humains ou des simulacres. L'un ressemble à Abraham Lincoln, l'autre à la célèbre cosmonaute mexicaine.
Quoi ?
Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Lincoln et Garcia, dans un tunnel. Je compte laisser Snyder et Finzi sur place et aller à la rencontre de ces inconnus. »
Ils approchèrent. Les soldats étaient en tête, prêts à tirer.
« Soyez les bienvenus dans Rama !»
dit l'Abraham Lincoln quand les premiers éclaireurs ne furent plus qu'à une vingtaine de mètres.
« Nous allons vous escorter vers vos demeures !»
Macmillan était muet. Ce fut Max Puckett qui rompit le silence.
« Êtes-vous un spectre ? Êtes-vous Abraham Lincoln ?»«
Certainement pas. Benita Garcia et moi-même sommes des biotes de type humain. Il en existe 5 modèles différents dans le Nouvel Éden. Chacun d'eux est spécialisé dans certaines tâches afin de vous épargner des corvées rebutantes. Les Lincoln se chargent des formalités administratives et légales, de la comptabilité et du ménage, de tout ce qui se rapporte à la gestion. »
Max était sidéré. Sans faire cas du commandant qui lui ordonnait de reculer, il se rapprocha encore.
« Ce n'est qu'un robot !»
murmura-t-il. Sans penser aux risques éventuels, il tendit la main et caressa la joue puis la longue barbe noire de Lincoln.
« Incroyable !»
fit-il.
« Absolument incroyable !»«
Notre finition a été tout particulièrement soignée, » expliqua le biote. « Nous avons une peau chimiquement similaire à la vôtre, et nos yeux fonctionnent selon les mêmes principes optiques, mais nous n'avons pas comme vous des cellules qui se renouvellent constamment. Nous devons en conséquence nous soumettre à un entretien régulier et faire à l'occasion remplacer certains de nos composants. »
L'initiative téméraire de Max avait désamorcé la tension. Tous les humains, Macmillan inclus, s'étaient avancés pour toucher les biotes qui répondaient à leurs questions. Kenji remarqua que Puckett était allé s'adosser à une paroi du tunnel à l'écart. Il se dirigea vers son ami.
« Que se passe-t-il, Max ?»«
Je me demande quel génie a pu créer de pareilles créatures. C'est effrayant. »
Puis il ajouta après quelques hésitations.
« Je ne suis peut-être pas normal, mais ces deux machins m'impressionnent encore plus que cet énorme vaisseau. »
Le Lincoln et la Garcia les guidèrent vers l'extrémité du tunnel. Une porte s'ouvrit dans la paroi, et interrogés par Macmillan, ils expliquèrent qu'ils allaient emprunter un moyen de transport pour gagner le microcosme de type terrien. Le commandant en informa Ulanov et lui dit de déguerpir s'il n'avait pas de leurs nouvelles dans un délai de 48 heures. Le voyage fut sidérant et rappela à Max Puckett les sensations éprouvées lorsqu'il avait fait un tour de montagne russe à la foire de Dallas. Leur véhicule, en forme de torpille, accéléra à l'intérieur d'un tube hélicoïdal qui reliait l'extrémité nord de Rama à la plaine centrale. Au-delà de la paroi en plastique transparent, il voyait l'enchevêtrement démesuré d'échelles, d'escaliers et de passerelles, mais il ne bénéficiait pas de la vue incomparable décrite par les explorateurs des précédents ramas, car une haute muraille gris métallisée limitait leur champ de vision. Moins de 5 minutes plus tard, ils descendaient du véhicule à l'intérieur d'un couloir annulaire qui entourait le module terrestre. Ces hommes, qui avaient vécu en apesanteur depuis leur départ de la Terre, furent surpris de retrouver une gravité presque normale.
Ici, et dans tout le Nouvel Éden, l'air a la même composition que sur votre planète,
dit le Lincoln.
Mais l'atmosphère est différente au-delà de ses parois.
Lorsque la grande porte interne s'ouvrit, ils furent éblouis par la vive clarté qui régnait dans leur nouveau monde. Ils se dirigèrent vers la gare la plus proche, le casque sous le bras. Ils passèrent devant des constructions basses, destinées à l'habitation ou au commerce, et un bâtiment plus important, une future école élémentaire, leur apprit la Benita Garcia, située juste en face de la gare. Ils prirent place dans une voiture au siège confortable, qui les emporta rapidement vers le cœur du Nouvel Éden, où ils assisteraient à une réunion d'information. Le train longea un plan d'eau important. Le lac Shakespeare, précisa la Benita Garcia, puis vira sur la gauche et s'éloigna des parois grippales de la colonie. Pendant la dernière partie du trajet, une grande montagne aux pentes dénudées domina le paysage sur la droite de la voie. Les hommes ne disaient rien, tant ils étaient impressionnés par ce qu'ils voyaient. Tout était bien plus majestueux qu'ils n'auraient pu l'imaginer. L'agglomération centrale, où les architectes du Nouvel Éden avaient regroupé les bâtiments importants, acheva de les sidérer. Ils restèrent bouche bée en découvrant le complexe communautaire, et Kenji et Max furent les derniers à pénétrer dans la construction où se tiendrait la conférence. Qu'en pensez-vous ? Demanda Kenji. Il se tenait sur la dernière marche du centre administratif et parcourait des yeux ce qui les entourait.
« J'en pense rien », avoua Max. « Tout ceci défie l'imagination. C'est à la fois le paradis, le pays des merveilles d'Alice et le monde enchanté des contes de fées de mon enfance. Je dois me pincer sans interruption pour m'assurer que je ne rêve pas. »
« Vous pouvez voir sur cet écran une vue d'ensemble du Nouvel Éden », disait le Lincoln. « Chacun de vous recevra un assortiment de cartes des lieux. Nous sommes ici, au cœur du module. Des résidences et des boutiques, des bureaux et des écoles ont été construits aux quatre angles de la colonie. Nous laisserons à leurs habitants le choix du nom de ces agglomérations, que nous désignerons pour l'instant en fonction de leur situation géographique et en respectant les conventions adoptées par les précédents explorateurs humains de Rama, qui considéraient que le point d'amarrage de leur vaisseau était l'extrémité nord du cylindre. Au sud, le lac Shakespeare recevra les poissons et les autres formes de vie aquatique que vous avez apportées, même si des spécimens seront également acclimatés dans les deux cours d'eau qui descendent du mont Olympe, quant à lui situé à l'est, à l'opposé de la forêt de Sherwood. Pour l'instant, cette montagne et ce bois, de même que les parcs des villages et la campagne, sont couverts d'un réseau d'échangeurs gazeux chargés de convertir le gaz carbonique en oxygène. C'est en quelque sorte une flore artificielle que les plantes apportées de la terre remplaceront progressivement. Le secteur qui s'étend entre les deux agglomérations du nord de la colonie sera réservé à l'agriculture. Des fermes ont été construites le long de la route qui les relie. En attendant que vous puissiez subvenir à vos besoins alimentaires, vos provisions et les réserves de nourriture de synthèse stockées dans les silos qui se dressent à 300 mètres au nord de ce bâtiment devraient permettre de nourrir 2000 humains pendant un an. Un an et demi en luttant contre le gaspillage. Ensuite, vous devrez vous débrouiller seul. Il va sans dire que la culture, l'élevage et l'aquaculture pratiquées sur la berge du lac Shakespeare seront pour vous d'un intérêt capital.
Kenji était submergé par les informations. Le Lincoln en fournit en grand nombre pendant une heure et demie et éluda les questions en rétorquant que leurs réponses ne figuraient pas dans ses mémoires ou en renvoyant les intéressés à des pages et à des paragraphes du guide du Nouvel Éden remis à chacun d'eux. Finalement, il fit une pause et tous passèrent dans la salle voisine où on leur servit une boisson au goût de Coca-Cola.
« Wow !» fit Terry Snyder en essuyant ses sourcils. « Suis-je le seul à avoir l'impression que mon cerveau va éclater ?»«
Allons, Snyder, vous n'allez tout de même pas baisser les bras !»
lui lança Max.
« Je parie que le conférencier pourrait continuer comme ça jusqu'à la fin de la journée. »
Pour ne pas dire de la semaine, intervint Kenji. Je me demande quelle est la fréquence d'entretien de ces biotes. La société de mon père fabrique des robots, mais rien d'aussi complexe.
Le nombre d'informations stockées dans sa mémoire doit être astronomique.
La réunion va reprendre dans 5 minutes, leur annonça le Lincoln.
Il leur présenta les diverses espèces de biotes du Nouvel Éden. Les colons avaient suivi un exposé de Kenji sur les précédentes explorations de Rama et s'attendaient à voir des crabes et des bulldozers, pas des androïdes.
Nos concepteurs ont décidé de se limiter à 5 modèles afin que vous puissiez les reconnaître au premier coup d'œil,
expliqua le Lincoln.
J'ai précisé quelles étaient les fonctions de mes semblables, mais bien que notre programmation de base soit identique, nous avons des capacités d'apprentissage limitées qui nous permettront de nous adapter à des usages spécifiques.
Comment peut-on vous différencier les uns des autres ?
Demanda un homme, alors que 3 autres Lincoln entraient dans la pièce.
Chaque biote humanoïde a un numéro de série sur l'épaule et la fesse gauche. Par exemple, je suis Lincoln 004. Mes congénères qui viennent de nous rejoindre sont les Lincoln 009, 024 et 071.
Ils laissèrent la place à 5 Benita Garcia. Une d'elles cita les spécialités de sa catégorie, lutte contre le crime et l'incendie, agriculture, hygiène publique, transport et courrier, puis répondit à quelques questions. L'entrée des Einstein provoqua un éclat de rire général. Ces doubles du génie scientifique du XXe siècle expliquèrent qu'ils étaient des ingénieurs et des chercheurs. Ils avaient pour tâche d'assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure de la colonie, ce qui incluait les autres intelligences artificielles. Puis, des femmes biotes noires de jet se présentèrent, des Tiasso, spécialistes des questions de santé. En plus de tenir un rôle de médecin et d'infirmière, elles garderaient les enfants en cas d'absence des parents. Finalement, un biote de type oriental arriva avec une lyre et un chevalet électronique. Il dit s'appeler Yasunari Kawabata et interpréta un air à la fois bref et magnifique.
« Les Kawabata sont des artistes, » expliqua-t-il. « Musiciens, acteurs, peintres, sculpteurs, écrivains et à l'occasion photographes et cinéastes. Nous sommes peu nombreux, mais indispensables à la qualité de vie dans le Nouvel Éden. »
La réunion s'acheva et on servit aux humains un succulent repas dans la grande salle. Une 20aine de biotes se joignirent à eux sans naturellement rien manger. L'ersatz de canard rôti s'avéra savoureux et seul un œnologue averti se serait rendu compte que les vins n'étaient pas d'excellents crus d'origine terrestre. Plus tard, dans la soirée, les hommes s'étaient accoutumés aux biotes et les soumettaient à un feu serré de questions quand une femme apparut sur le seuil. Tout d'abord, nul ne lui prêta attention, mais tous se turent quand Kenji Watanabe se leva et alla vers elle la main tendue.
« Docteur Desjardins, je présume, »
fit-il en souriant.